Bouillon de lecture. Bouillon de lecture, une émission pour vous faire aimer la lecture. Il s'agit de vous faire découvrir un livre pour vous donner envie de vous y plonger. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Tu vas nous lire donc un nouveau livre cette fois. Quel livre as-tu choisi ?
Aujourd'hui, j'ai choisi un livre publié en 2014 aux éditions Gallimard, L'amie prodigieuse de Elena Ferrante.
Très bien. Eh bien, nous t'écoutons, Hervé.
Alors, comme d'habitude, commençons par un petit mot sur l'auteur. Je serai bref, car en fait, on ne connaît rien d'elle qui tient absolument à rester dans l'ombre et refuse toute publicité, acceptant seulement en de rares occasions des interviews écrites. Lors de l'une d'elles, elle a reconnu être une mère de famille et que son œuvre était d'inspiration autobiographique. A priori, donc, on saurait qu'elle serait née à Naples en 1943. Du coup, je rebondis sur un spectacle qui se joue épisodiquement dans la région et qui s'appelle « Hommage à Nougaro » par la compagnie du Petit Bonheur. À un moment donné, le conteur de ce spectacle compare l'enfance de Madame Ferrante à celle de Bruno Martino, le musicien italien qui, suite à une déception amoureuse, aurait écrit son tube, devenu standard de jazz, « Odio l'estate », « Je hais l'été », dans cette même ville pendant cette même période. Le roman « L'amie prodigieuse » est le portrait de deux héroïnes vivant à Naples, ville qui connaît à l'époque, les années 50-60, un boom économique. Ce roman a connu un formidable succès, on peut le qualifier de best-seller. Son quatrième tome vient d'être publié. Comme d'habitude, j'ai découpé artificiellement ma lecture en quatre chapitres, cela pour vous permettre de vous servir une bière ou d'aller au petit coin. Vous êtes prêts ? Chapitre 1, Lila. Lila apparut dans ma vie en première année de primaire et elle me fit tout de suite impression parce qu'elle était très méchante. Nous étions toutes un peu méchantes dans cette classe, mais seulement quand la maîtresse, Madame Olivero, ne pouvait nous voir. Lila, en revanche, était tout le temps méchante. Un jour, elle réduisit le papier toilette en tout petits morceaux. Elle commença par glisser les fragments obtenus un à un dans l'ouverture de son encrier, puis elle se mit à les repêcher avec sa plume et à les lancer sur nous. Je fus atteinte deux fois dans les cheveux et une fois sur mon col blanc. La maîtresse hurla comme elle savait le faire avec sa voix qui nous terrorisait, puissante et pointue comme une aiguille, et elle lui ordonna de venir tout de suite derrière le tableau pour recevoir sa punition. Lila n'obéit pas, ne parut même pas effrayée et continua à lancer autour d'elle des bouts de papier trempés dans l'encre. Alors, Madame Olivero, une femme lourde qui nous paraissait très vieille, même si elle devait à peine dépasser la quarantaine, descendit de son estrade en la menaçant. Trébucha on ne sait trop sur quoi, ne parvint pas à rétablir son équilibre et son visage alla cogner contre le coin d'une table. Elle resta allongée par terre, comme morte. Je ne me souviens pas de ce qui se passa immédiatement après. Je me rappelle juste le corps immobile de la maîtresse, comme un tas de linge noir, et Lila qui la fixait, le visage sérieux. J'ai en mémoire de nombreux accidents de ce genre. Nous vivions dans un monde où, enfants comme adultes, on se blessait souvent. De ces blessures dont le sang jaillissait, la suppuration survenait, et parfois, on en mourait. Une des deux filles de Madame Assunta, la marchande de fruits et de légumes, s'était blessée avec un clou et elle était morte du tétanos. Le petit dernier de Madame Spagnuolo était mort du croup. Un de mes cousins, qui avait alors 20 ans, alla pelleter des décombres un matin. Le soir, il était mort, écrasé, le sang lui sortant par les oreilles et par la bouche. On pouvait aussi mourir de choses qui avaient l'air normales. On pouvait mourir, par exemple, si on était en sueur et qu'on buvait l'eau froide du robinet sans s'être au préalable mouillé les poignets. Alors tu te retrouvais couvert de petits boutons rouges, tu te mettais à tousser et n'arrivais plus à respirer. On pouvait mourir si on mangeait des cerises noires sans en cracher le noyau. On pouvait mourir si on mâchait un chewing-gum et, par distraction, on l'avalait. et surtout, on pouvait mourir si on se prenait un coup sur la tempe. La tempe était une zone extrêmement fragile et nous y faisions toutes très attention. Il suffisait de recevoir une pierre. Or, pour nous, les jets de pierre, c'était la routine. À la sortie de l'école, une bande de garçons de la campagne, avec à leur tête un certain Enzo, l'un des fils d'Assunta, la vendeuse de fruits et légumes, se mit un jour à nous jeter des pierres. Ils étaient vexés parce que nous étions meilleurs qu'eux à l'école. Quand les cailloux arrivaient, tout le monde s'enfuyait, à part Lila, qui continuait à avancer d'un pas régulier et parfois même s'arrêtait. Elle était très douée pour étudier la trajectoire des pierres et les esquiver d'un mouvement calme qu'aujourd'hui je qualifierais d'élégant. Elle avait un frère plus âgé qu'elle et peut-être avait-elle appris grâce à lui, je ne sais pas. Moi aussi j'avais des frères, mais plus petits, et d'eux je n'avais rien appris. Quoi qu'il en soit, quand je me rendais compte qu'elle était restée en arrière, je m'arrêtais pour l'attendre, même si j'avais très peur. D'abord, je restais caché au coin d'un immeuble et je me penchais pour voir si Lila arrivait. Puis, étant donné qu'elle ne bougeait pas, je m'obligeais à la rejoindre. Je lui passais des pierres et j'en lançais moi aussi. Cette bande venait du terre-plein de la voie ferrée et faisait provision de pierres entre les rails. Enzo, leur chef, était un jeune garçon très dangereux. Il avait au moins 3 ans de plus que nous. C'était un redoublant. Il avait des cheveux blonds, très courts, et des yeux clairs. Il lançait avec précision des petites pierres au bord tranchant, et Lila attendait ses tirs pour lui montrer comment elle les esquivait. Ainsi, il s'énervait encore plus, et elle ripostait aussitôt par des tirs tout aussi dangereux. Un jour, nous l'atteignîmes à la cheville, et je dis « nous » parce que c'est moi qui passais à Lila une pierre plate dont tous les côtés étaient coupants. Le caillou glissa sur la peau d'Enzo comme un rasoir, lui laissant une marque rouge d'où le sang sortit immédiatement. Le garçon regarda sa jambe blessée, je le revois encore. Entre le pouce et l'index, il tenait la pierre qu'il s'apprêtait à envoyer. Son bras était déjà levé pour la lancer, et pourtant, il s'arrêta net, stupéfait. Même les garçons, sous son commandement, fixèrent le sang qui coulait incrédule. Lila, en revanche, n'afficha pas la moindre satisfaction devant le bon résultat de son tir et se pencha pour ramasser un autre caillou. Je la saisis par le bras et ce fut là notre premier contact, un contact brusque et effrayé. Je sentais que la bande allait devenir encore plus féroce et je voulais que nous nous retirions. Mais nous n'en eûmes pas le temps. Enzo, malgré sa cheville ensanglantée, se remit de sa stupeur et lança le caillou qu'il avait en main. Je tenais encore fermement Lila quand la pierre la heurta en plein fouet au niveau du front, l'arrachant à moi. Un instant plus tard, elle était étendue sur le trottoir, le crâne fendu. Le jour où Madame Olivero tomba de l'estrade et alla cogner sa joue contre la table, moi, comme je l'ai dit, je crus qu'elle était morte. Morte au travail comme mon grand-père ou comme le mari de Mélina. Et il me sembla, du coup, que Lila aussi allait mourir, à cause de la punition terrible qu'elle allait recevoir. Pourtant, pendant une période que je ne puis définir, brève ou longue, il ne se passa rien. Elles se contentèrent de disparaître toutes deux, la maîtresse comme l'élève, de nos journées et de nos mémoires. Mais tout était très surprenant à cette époque. Quand Madame Olivero revint à l'école vivante, elle se mit à s'occuper de Lila, non pas pour la punir, comme cela nous aurait semblé naturel, mais pour chanter ses louanges. Cette nouvelle phase commença quand la mère de Lila, Madame Cerullo, fut convoquée à l'école. Un matin, la pariteur frappa à la porte et l'annonça. Aussitôt après, Nunzia Cerullo entra, méconnaissable. Elle qui, comme la plupart des femmes du quartier, vivait attifée de vieux vêtements élimés et en pantoufles, elle apparut dans sa robe de cérémonie, tout en noir, avec un petit sac à main brillant et des chaussures dotées d'un petit talon qui faisait souffrir ses pieds gonflés. Et elle offrit à la maîtresse 2 sachets en papier, l'un contenant du sucre et l'autre du café. La maîtresse accepta ce présent bien volontiers et tout en regardant Lila qui, elle, fixait sa table, elle adressa à sa mère et à toute la classe des propos dont le sens général me désorienta. C'était notre première année de primaire. Nous apprenions tout juste l'alphabet et les nombres de 1 à 10. La meilleure de la classe, c'était moi. Je savais reconnaître toutes les lettres. Je savais dire 1, 2, 3, 4, etc. On me félicitait tout le temps pour mon écriture et je gagnais des cocardes tricolores que cousait la maîtresse. Toutefois, à notre plus grande surprise, et bien que Lila l'ait fait tomber et envoyer à l'hôpital, Madame Olivero déclara que la meilleure d'entre nous, c'était elle. Certes, c'était aussi la plus méchante. Certes, elle avait commis un acte terrible de nous lancer des morceaux de papier toilette tachés d'encre. Certes, si cette petite fille ne s'était pas comportée de manière aussi indisciplinée, elle, notre maîtresse, ne serait pas tombée de l'estrade en se blessant à la joue. Certes, elle était constamment obligée de la punir avec la règle en bois ou en l'envoyant s'agenouiller sur des grains de blé durs derrière le tableau. Mais il y avait quelque chose qui, en tant que maîtresse et aussi en tant que personne, la comblait de joie. Quelque chose de merveilleux qu'elle avait découvert quelques jours auparavant par hasard. Là, elle s'arrêta comme si les mots ne lui suffisaient pas, ou comme si elle voulait nous enseigner à la mère de Lila et à nous que ce sont presque toujours les mots plus que les actions qui comptent. Elle saisit un morceau de craie et écrivit un mot au tableau. Je ne me rappelle plus quoi, puisque je ne savais pas encore lire. Je l'invente donc. Soleil. Puis elle demanda à Lila : C'est rullo, qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Dans la classe, un silence intrigué s'installa. Lila esquissa un demi-sourire, presque une moue. Alors elle lut d'un ton boudeur. Soleil. Madame Cerullo se tourna vers la maîtresse et son regard était hésitant, presque effrayé. Sur le coup, Madame Olivero n'eut pas l'air de comprendre pourquoi, dans les yeux de mère, elle ne voyait pas l'enthousiasme qui était le sien. Mais ensuite, elle dut se douter que Madame Cerullo ne savait pas lire, ou qu'en tout cas, elle n'était pas bien sûre qu'au tableau, il y ait vraiment écrit « Soleil », et elle fronça les sourcils. Donc, à la fois pour clarifier la situation au bénéfice de Madame Cerullo et pour féliciter notre camarade, elle dit à Lila « C'est bien ce qui est écrit, soleil ». Puis elle lui ordonna « Allez Cerullo, viens au tableau ». Lila se rendit au tableau en traînant et la maîtresse lui tendit la craie. « Écris, craie », lui dit-elle. Lila, très concentrée et avec une écriture tremblante, plaçant les lettres tantôt en haut, tantôt en bas, écrivit « Cray, C-R-A-I ». Madame Olivero ajouta le « E » et Madame Cerullo, en voyant la correction, lança avec désolation à sa fille « Tu t'es trompée ». Mais la maîtresse la rassura aussitôt « Mais non, 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 Lila doit s'exercer, c'est vrai, mais elle sait déjà à la fois lire et écrire. Qui est-ce qui lui a appris ?» Madame Cerullo répondit les yeux baissés « C'est pas moi. » « Mais chez vous ou dans votre immeuble, est-ce que quelqu'un a pu le faire ?» Madame Cerullo secoua la tête avec énergie. Alors la maîtresse s'adressa à Lila et, avec une admiration sincère, lui demanda devant nous toutes « Qui est-ce qui t'a appris à lire et à écrire, Cerullo ?» Cerullo, menu, les cheveux, les yeux et la blouse tout noirs, un nœud rose autour du cou et 6 années de vie seulement répondit « Moi ».
À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter raconter un peu comment j'étais minot et bon mec fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à un franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Et les frères aux doudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. Sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va, te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous, te dire que les méchants c'est pas nous, que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux, et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux, te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants et les Mistral gagnants.
Chapitre 2. Don Achille. Un jour, Lila et moi décidâmes de monter l'escalier qui conduisait marche après marche, étage après étage, jusqu'à la porte de l'appartement de Don Achille. C'est ainsi que notre amitié commença. Don Achille, c'était l'ogre des contes, et j'avais l'interdiction absolue de l'approcher, lui parler, le regarder ou l'épier. Il fallait faire comme si sa famille et lui n'existaient pas. Il était craint et haï. Dans ma famille, mais pas seulement, sans que je sache d'où ça venait. Mon père en parlait d'une telle façon que je l'avais imaginé gros, couvert de cloques violacées et constamment hors de lui malgré ce « don » qui évoquait au contraire pour moi une autorité calme. C'était un être fait de je ne sais quelle matière, fer, verre ou ortie, mais vivant. Vivant avec un souffle brûlant qui lui sortait par le nez et par la bouche. Je croyais que si je le voyais ne serait-ce que de loin, il me planterait dans les yeux quelque objet acéré et chauffé à blanc. Et si j'avais la folie de m'approcher de la porte de son appartement, là, il me tuerait. J'attendis un peu pour voir si Lila changeait d'avis et faisait volte-face. Je savais ce qu'elle voulait faire, et j'avais inutilement espéré que cela lui sortirait de l'esprit. Mais pas du tout. Les lampadaires n'étaient pas encore allumés et la lumière dans les escaliers non plus. Des voix énervées provenaient des appartements. Pour la suivre, il fallait que je quitte la lueur bleutée de la cour et que je pénètre dans le noir du hall d'entrée. Je me décidai. Au début, je ne vis rien et ne sentis qu'une odeur de renfermé. Puis, je m'habituai à l'obscurité et découvris Lila assise sur la première marche des escaliers. Elle se leva et nous commençâmes à monter. Nous avançâmes en nous tenant du côté du mur. Elle, 2 marches devant, et moi, 2 marches derrière, tiraillée entre le désir de raccourcir la distance entre nous et celui de l'augmenter. Je tremblais. Chaque bruit de pas et chaque éclat de voix, c'était Don Achille qui arrivait dans notre dos, ou bien qui venait vers nous avec un grand couteau, de ceux qu'on utilisait pour ouvrir le ventre des poules. On sentait une odeur d'ail frit. Maria, la femme de Don Achille, allait me mettre dans sa poêle avec de l'huile bouillante. Leurs enfants me mangeraient et lui me sucerait la tête comme mon père le faisait avec les rougets. Nous nous arrêtâmes souvent et à chaque fois, j'espérais que Lila se déciderait à faire demi-tour. J'étais trempé de sueur. De temps en temps, elle regardait en l'air, mais je ne comprenais pas quoi. On ne voyait que la grisaille des fenêtres à chaque palier. Soudain, les lumières s'allumèrent, mais elles étaient faibles et poussiéreuses et laissaient de vastes zones d'ombre remplies de danger. Nous attendîmes pour comprendre si c'était Don Achille qui avait tourné l'interrupteur, mais on n'entendit rien, aucun pas ni porte qui s'ouvre ou se referme. Alors, Lila poursuivit et moi derrière. Elle considérait que ce qu'elle faisait était juste et nécessaire, tandis que moi, j'avais oublié pour quelle raison j'étais là, et pour sûr, j'étais là uniquement parce qu'elle y était. Nous montions lentement vers la plus grande de nos terreurs de l'époque, nous allions affronter nos peurs et la regarder en face. Avec Lila, on se voyait de plus en plus souvent dans notre cour. Nous nous montrions nos poupées, l'air de rien, l'une dans les parages de l'autre, comme si chacune était seule. De temps en temps, nous les faisions se rencontrer pour essayer, pour voir si elles s'entendaient bien, nos poupées. Et ainsi arriva le jour où nous étions devant le soupirail de la cave avec la grille décollée. Nous procédâmes à l'échange, elle tint un peu ma poupée et moi la sienne, et de but en blanc, Lila fit passer Tina, ma poupée, à travers l'ouverture du grillage et la laissa tomber. J'éprouvais une douleur insupportable. Je tenais à ma poupée comme à ce que j'avais de plus précieux. Je savais que Lila était une gamine très méchante, mais je ne me serais jamais attendu qu'elle me fasse un coup aussi cruel. Pour moi, ma poupée était vivante, et la savoir au fond de la cave, au milieu des mille bestioles qui y grouillaient, me jeta dans le désespoir. Mais en cette occasion, j'appris un art dont je devins par la suite experte. Je retins mon désespoir, je le retins sur le bord de mes yeux humides à tel point que Lila me lança en dialecte. « Tu t'en fiches ?» Je ne répondis rien. J'éprouvais une douleur extrêmement violente, mais je sentais que la douleur de me fâcher avec elle serait plus forte encore. J'étais comme étranglé par deux souffrances, une déjà en acte, la perte de ma poupée, et une potentielle, la perte de Lila. Je ne dis rien et ne fis qu'un geste sans montrer de dépit et qui, comme si c'était naturel. Même si ça ne l'était pas, et si je savais que je risquais gros. Je me contentais de jeter dans la cave sa nue, la poupée qu'elle venait de me donner. Lila me regarda, incrédule. « Moi aussi, je suis capable de faire comme toi, » récitai-je aussitôt à voix haute, épouvanté. « Maintenant, tu vas me la chercher, si tu vas chercher la mienne. » Nous y allâmes ensemble. Dans l'entrée de l'immeuble, sur la gauche, il y avait une petite porte qui conduisait aux caves. Abîmée comme elle l'était, un des battants ne tenait que sur un seul gond, la porte était bloquée par un verrou qui maintenait ensemble tant bien que mal les deux battants. Tous les enfants étaient tentés, mais en même temps terrorisés par la possibilité de forcer cette porte juste assez pour pouvoir passer de l'autre côté. C'est ce qu'on fit. Nous obtînmes un espace suffisamment grand pour que nos deux corps minces et souples se glissent dans la cave. Une fois à l'intérieur, Lila d'abord et moi derrière, nous descendîmes 5 marches en pierre jusqu'à un endroit humide, mal éclairé, par de petites ouvertures au niveau de la rue. J'avais peur. J'essayais de suivre Lila, qui allait droit à la recherche de sa poupée. J'avançais à tâtons. Je sentais sous mes semelles des objets qui craquaient, vers, pierrailles ou insectes. Nous étions entourés d'objets non identifiables, de masses obscures, pointues, carrées ou arrondies. Le peu de lumière qui traversait l'obscurité tombait parfois sur des objets reconnaissables. Le squelette d'une chaise, la hampe d'un lustre, des cageots de fruits, des fonds et des flancs d'armoire, des peintures. Je fus très effrayé par une espèce de visage flasque aux grands yeux de verre dont le menton s'allongeait en forme de boîte. Je le vis accroché sur un petit moine en bois avec son expression désolée et l'indiquait à Lila en criant. Elle se retourna d'un bond, s'approcha lentement de l'objet en me tournant le dos, tendit une main précautionneuse et l'enleva du moine. Puis elle se tourna. Elle avait mis le visage aux yeux de verre sur le sien. Et maintenant, elle avait un visage énorme, aux orbites rondes sans pupilles, privé de bouche, avec ce menton noir en galoche qui pendait sur sa poitrine. Ce sont des instants qui sont restés fortement imprimés dans ma mémoire. Je n'en suis pas certaine, mais il dut sortir de ma poitrine un véritable hurlement de terreur, parce qu'elle se hâta de dire que ce n'était qu'un masque, un masque à gaz. Son père l'appelait comme ça. Il avait le même dans le débarras de leur maison. Je continuai à trembler et à gémir de peur, ce qui visiblement la convainquit de l'ôter. Je me calmai. Lila regarda autour d'elle et repéra l'ouverture d'où nous avions fait tomber Tina et Nu. Nous nous approchâmes du mur et regardâmes dans l'ombre. Les poupées n'y étaient pas. Lila répétait en dialecte « Elles ne sont pas là. Elles ne sont pas là. » Et elle fouillait par terre avec ses mains, ce que moi je n'avais pas le courage de faire. De très longues minutes s'écoulèrent. Une fois seulement, je crus voir Tina et avec un coup au cœur, je me pensais pour la ramasser. Mais ce n'était qu'une vieille page de journal roulée en boule. « Elles ne sont pas là, » répéta Lila. Et elle se dirigea vers la sortie. Alors, je me sentis perdu. Incapable de rester là, toute seule, à continuer les recherches, incapable de m'en aller avec elle si je n'avais pas trouvé ma poupée. En haut des marches, elle annonça « C'est Don Achille qui les a prises, il les a mises dans son sac noir. » Et à cet instant même, je l'entendis, Don Achille. Il rampait et se frottait contre les formes indistinctes des objets. Alors, j'abandonnai Tina à son destin et m'enfuis pour ne pas perdre Lila qui, agile, se tortillait déjà pour se couler de l'autre côté de la porte dégondée. Aller chez Don Achille aussi, c'était interdit. Mais elle décida tout de même de le faire quand même et je la suivis. Ce fut même à cette occasion qui me convainquit que rien ne pouvait l'arrêter et que chacune de ses désobéissances débouchait sur des prodiges à couper le souffle. Nous voulions que Don Achille nous rende nos poupées. C'est pour ça donc que nous montions les escaliers, même si à chaque marche j'étais sur le point de faire volte-face et de retourner dans la cour. Je sens encore la main de Lila qui saisit la mienne. Et j'aime à penser qu'elle se décida de le faire, non seulement parce qu'elle eut l'intuition que je n'aurais pas le courage d'arriver jusqu'au dernier étage, mais aussi parce qu'elle-même cherchait dans ce geste la force de continuer. C'est ainsi, tout près l'une de l'autre, moi du côté du mur et elle du côté de la rampe, nos mains jointes sur des paumes en sueur, que nous montâmes les dernières marches. Devant la porte de Don Achille, mon cœur battait très fort. Je l'entendais dans mes oreilles, mais je me consolais en me disant que c'était aussi le bruit du cœur de Lila. Des voix provenaient de l'appartement. Après une pause très longue et silencieuse devant la porte, Lila tourna la petite clé de la sonnette. Il y eut un silence, puis un bruit de savate. C'est Donna Maria, sa femme, qui nous ouvrit. Elle portait une robe de chambre d'un vert fané. Quand elle parla, je vis dans sa bouche une dent en or très brillante. Elle crut que nous cherchions Alfonso, son fils. Et elle était un petit peu surprise. Lila lui répondit en dialecte. « Non, c'est Don Achille que nous voulons voir. Nous devons lui parler en personne. » La femme cria. « Achi !» D'autres bruits de savates. Une silhouette trapue apparut dans la pénombre. Son buste était long et ses jambes courtes. Ses bras descendaient jusqu'aux genoux. Et il avait une cigarette à la bouche dont on voyait la braise. Il demanda d'une voix rauque « Qui c'est ?»« La fille du cordonnier avec la grande des Greco. » Don Achille entra dans la lumière et pour la première fois nous le vîmes vraiment. Aucun minéral, aucun scintillement de verre. Son visage long était fait de chair et ses cheveux frisottaient juste au-dessus de ses oreilles, tandis que le centre de sa tête était tout brillant. Ses yeux étincelaient, leur blanc veiné de petits ruisseaux rouges, sa bouche était large et fine et il avait un gros manteau avec une fossette au milieu. Je le trouvais laid, mais pas autant que je l'avais imaginé. « Ben quoi ?» Les poupées, dit Lila.
Quelles poupées ?
Les nôtres.
Ici, on n'a pas besoin de vos poupées.
Vous les avez prises dans la cave.
Don Achille se tourna et cria vers l'intérieur de l'appartement.
Pinu, c'est toi qui as pris des poupées de la fille du cordonnier ?
Non, c'est pas moi.
Alors, c'est qui l'a prise ?
Des rires. Lila, immobile, lança, et je me demande bien d'où lui venait ce courage. C'est vous qui les avez prises, on vous a vu.
Il y eut un moment de silence.
Ah, vous m'avez vu.
Oui, et vous les avez mises dans votre grand sac noir.
En entendant ces derniers mots, l'homme plissa le front, agacé. Je n'arrivais pas à croire que nous étions là, devant Don Achille, avec Lila qui lui parlait comme ça, et lui qui la fixait d'un air perplexe, pendant que dans le fond, on entrevoyait Alfonso et ses autres enfants qui mettaient la table pour le dîner. Je n'arrivais pas à croire que c'était une personne banale. Il était un petit peu petit, chauve et disproportionné, mais banal. Du coup, je m'attendais qu'il se transforme d'un moment à l'autre.
Don Achille répéta comme pour bien comprendre le sens de ces mots.
« J'ai pris vos poupées et je les ai mises dans mon sac noir. »
J'eus l'intuition qu'il n'était pas en colère, mais que tout à coup, il se sentait là, comme s'il recevait la confirmation de quelque chose qu'il savait déjà. Il dit quelques mots en dialecte que je ne compris pas, et Maria cria
« Achille, c'est prêt !»«
J'arrive !»
Don Achille porta sa grosse et large main à la poche revolver de son pantalon. Nous nous serrâmes très fort la main, nous attendons qu'il en sorte un grand couteau. Mais c'est un portefeuille qu'il tira. Il l'ouvrit, regarda à l'intérieur et tendit à Lila de l'argent, je ne sais plus combien.
« Allez vous les acheter, vos poupées, » dit-il.
Lila attrapa l'argent et me tira dans les escaliers. Se penchant au-dessus de la rampe, il bougonna.
Et rappelez-vous que c'est moi qui vous les ai offertes. »
Je dis en italien, faisant attention à ne pas tomber dans les escaliers.
« Bonsoir, monsieur, et bon appétit !»
Votre cœur sous la pierre, votre cœur se fout, s'en est allé. Le vent l'a balayé, comme tous les autres cœurs. Étrange et solitaire, votre cœur se fout, s'est consumé. Bienveillant et borné, s'évaporant bien avant l'heure. Je vous hais de vous avoir tant aimé. Votre cœur fait de pierre, capricieux et rêveur à lâcher. De soupirs accablés, compressés, harassés d'aigreur. Votre nom sur la carte est rayé. Nulle part où aller, votre cœur c'était le monde entier. Thank you.
Chapitre 3. À l'école. Madame Olivero, la maîtresse d'école, demandait souvent à Lila de s'asseoir près d'elle. Mais elle avait l'air d'agir ainsi plus pour la faire tenir tranquille que pour la récompenser. De fait, elle continua à nous féliciter. Maritza Saratore, Carmela Peluzzo et surtout moi. Elle me permit de briller de tous mes feux et m'encouragea à devenir toujours plus disciplinée, appliquée, précise. Quand Lila sortait d'une zone de turbulence et me dépassait sans le moindre effort, Madame Olivero commençait par me féliciter simplement avant d'exalter les mérites de Lila. Je sentais davantage le poison de la défaite quand c'était Saratore ou Peluzzo qui me devançait. Mais si je finissais deuxième après Lila, j'affichais une douce expression de contentement. Ces années-là, je crois n'avoir connu qu'une crainte, celle de ne plus être associée dans la hiérarchie établie de Madame Olivero à Lila et de ne plus entendre la maîtresse déclarer avec orgueil « Ces Rullo et Greco sont les meilleurs ». Si un jour elle avait annoncé « Ces Rullo et Saratore sont les meilleurs » ou « Ces Rullo et Peluzzo », je serais morte sur le coup. J'employais donc toutes mes ressources de petite fille, non pas à devenir première de la classe, cela me semblait impossible, mais à ne pas glisser à la troisième, quatrième ou la dernière place. Au moins deux fois par an, le directeur obligeait ses classes à rivaliser entre elles afin de repérer les élèves les plus brillantes et par conséquent les professeurs les plus compétents. Madame Olivero aimait beaucoup cet exercice. En conflit permanent avec ses collègues, avec lesquels elle semblait parfois sur le point d'en venir aux mains, la maîtresse nous utilisait, Lila et moi, comme la preuve éclatante de son talent, elle, la meilleure institutrice de notre quartier. Du coup, il lui arrivait souvent de nous emmener dans les autres classes, pour nous mettre en compétition avec d'autres enfants, filles et garçons. Moi, d'ordinaire, j'étais envoyée en éclaireuse afin de sonder les compétences de l'ennemi. Pour Lila, il en allait tout autrement. En première année, elle était déjà au-delà de toutes les compétitions possibles. La maîtresse disait même qu'avec un peu de travail, elle pourrait passer directement l'examen de fin de deuxième année. Et, à moins de 7 ans, entrer déjà en troisième année. Par la suite, cet écart ne fit que croître. Lila faisait des calculs mentaux extrêmement compliqués. Il n'y avait pas une faute dans ses dictées. Et si avec nous tous, elle parlait toujours en dialecte, elle pouvait aussi déployer un italien livresque jusqu'à l'utilisation des mots comme « accoutumé »,« luxuriant » ou bien « volontiers ». Sa vitesse de réaction tenait du sifflement, du jaillissement et de la morsure fatale. Et rien, dans son aspect, ne pouvait servir de correctif. Elle était ébouriffée, sale, et elle avait toujours aux genoux et aux coudes des croûtes de blessures qui n'avaient jamais le temps de guérir. Ses grands yeux très vifs pouvaient se transformer en fentes derrière lesquelles, avant chaque réponse brillante, perçait un regard qui non seulement n'avait pas grand-chose d'enfantin, mais qui ne semblait pratiquement pas humain. Chacun de ses mouvements signifiait aux autres que lui faire du mal ne servait à rien parce que, quoi qu'il arrive, elle trouverait toujours le moyen de leur en faire davantage. Un matin, alors que nous étions en deuxième année, on nous emmena toutes les deux, rien de moins que dans une classe de quatrième année, la classe de M. Ferraro, où se trouvaient à la fois Enzo Scanno, le dangereux fils de la marchande de fruits et légumes, et le frère de Maritza, Dino Saratore, dont j'étais amoureuse. Tout le monde connaissait Enzo. C'était un redoublant et, au moins à deux reprises, il avait été traîné de classe en classe avec un panneau autour du cou sur lequel M. Ferraro, un homme aux cheveux gris en brosse, très grand et très maigre, au visage petit et marqué, avait écrit « Anne ». Nino, en revanche, était si gentil, si doux et si silencieux que j'étais presque la seule à le connaître et le chérir. Nos adversaires dans le domaine de l'intelligence, c'était Nino. Et on le découvrit à cette occasion, Alfonso Caracci, le troisième enfant de Don Achille. Un petit garçon très soigné, en deuxième année comme nous, qui faisait plus petit que ses 7 ans.
La compétition débuta devant les classes rassemblées dans une seule salle. Ils nous posèrent des questions sur les verbes et la table de multiplication. Nous demandèrent d'effectuer les quatre opérations, d'abord au tableau et puis de tête. De cette occasion particulière, trois faits me sont restés en mémoire. Le premier, c'est que le petit Alfonso Caracci m'écrasa immédiatement. Il était calme, précis, mais le côté positif, c'est qu'il n'affichait aucun plaisir à dominer. Le deuxième fait, c'est que Nino Sarratore, à ma plus grande surprise, ne répondit presque jamais aux questions. Il demeura hébété comme s'il ne comprenait pas ce que les deux professeurs lui demandaient. Le troisième, c'est que Lila tint tête au fils de Don Achille avec mollesse, comme si peu lui importait qu'il puisse la battre. La scène ne s'anima que lorsque l'on passa aux calculs mentaux, addition, soustraction, multiplication et division. Malgré la nonchalance de Lila, qui parfois restait coite, comme si elle n'avait pas entendu la question, Alfonso commença à perdre des points, se trompant surtout dans les multiplications et les divisions. Du reste, si le fils de Don Achille cédait du terrain, Lila non plus n'était pas à la hauteur, et de ce fait, ils semblaient plus ou moins égaux. Mais tout à coup, quelque chose d'imprévu se produisit. À deux reprises, alors que Lila ne répondait pas ou qu'Alfonso se trompait, on entendit la voix d'Enzo Scanno, chargé de mépris, qui, depuis les derniers rangs, donnait le bon résultat. Tout le monde en fut stupéfait. La classe, les maîtres, le directeur, Lila et moi. Comment était-il possible qu'un garçon comme Enzo, paresseux, incapable et délinquant, sache faire des calculs mentaux compliqués mieux que moi, qu'Alfonso Caracci et Nino Sarratore? Soudain, ce fut comme si Lila se réveillait. Alfonso fut rapidement éliminé et le maître consentit avec fierté à changer promptement de champion. Un duel commença entre Lila et Enzo. Le duel commença avec des calculs mentaux toujours plus difficiles. Le petit garçon donnait le résultat en dialecte, comme s'il était dans la rue et non dans une salle de classe, et le maître corrigeait son expression. Mais le nombre était toujours juste. Enzo eut l'air extrêmement fier de ce moment de gloire. Il semblait lui-même émerveillé de voir combien il était fort. Puis il commença à faiblir, parce que Lila était définitivement réveillée et à présent elle avait ses yeux en forme de fente, pleins de détermination, et répondait avec précision. Finalement, Enzo perdit. Il perdit, mais sans se résigner. Il se mit à jurer et à lancer d'horribles obscénités. Le maître l'envoya s'agenouiller derrière le tableau. Cependant, il refusa d'y aller. Il reçut des coups de règle sur les doigts et fut traîné par les oreilles dans le coin des punitions. Ainsi s'acheva cette journée d'école.
Ma mère, quand je suis con et faible, et quand je suis brûlé comme une baleine, c'est elle qui sait que mes pieds puent, c'est elle qui sait comment je suis nu. Mais quand je suis malade, elle est la reine du suppositoire. Et dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh, et dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. L'amour, je trouve ça toujours dans les yeux. Ma mère, il y a toujours une lumière.
Chapitre 4, De l'autre côté du tunnel. Peu avant l'examen de fin de primaire, Lila me poussa encore à faire une de ces choses que toute seule, je n'aurais jamais eu le courage de faire. Nous décidâmes de ne pas aller à l'école et de franchir les frontières de notre quartier. Ça ne nous était jamais arrivé. Aussi loin que je me souvienne, je ne m'étais jamais éloigné de nos immeubles blancs de 4 étages, de notre cour, de la paroisse et du jardin public. Des trains passaient toute la journée au fond de la campagne, des voitures et des camions allaient et venaient sur le boulevard, et pourtant, je ne me rappelle pas la moindre occasion où j'aurais pu demander à mon père, à la maîtresse ou à moi-même. Mais ils vont où, ces trains, ces voitures et ces camions? Dans quelle ville? Dans quel monde? Lila non plus n'avait jamais montré aucun intérêt particulier pour cette question. Pourtant, ce jour-là, elle organisait tout. Elle me dit de raconter à ma mère qu'après l'école, nous irions toutes chez la maîtresse pour fêter la fin de l'année scolaire. Quand je m'efforçais de lui rappeler que les institutrices n'avaient jamais invité toutes leurs jeunes élèves chez elles pour une fête, elle répondit que c'était précisément pourquoi il fallait raconter ça. L'événement semblerait tellement exceptionnel qu'aucun de nos parents n'oserait aller demander à l'école si c'était vrai. Comme d'habitude, je lui fis confiance et tout se passa exactement comme elle l'avait prévu. Chez moi, tout le monde y crut, non seulement mon père et mes frères, mais aussi ma mère. La veille, je n'arrivais pas à m'endormir. Qu'y avait-il donc au-delà de notre quartier, au-delà de ce périmètre que nous connaissions par cœur? Derrière chez nous s'élevait une petite colline recouverte d'arbres et quelques rares constructions qui longeaient les rails. Devant, de l'autre côté du boulevard, commençait une route pleine de trous qui suivait les étangs. À droite, en sortant par le portail, une plate campagne s'étendait, sans un arbre et sous un ciel énorme. À gauche, il y avait un tunnel avec 3 entrées. Mais si on grimpait jusqu'à la voie ferrée, on voyait derrière les maisons basses se dresser une montagne bleu ciel dotée de 2 sommets, l'un plus haut que l'autre. Elle s'appelait le Vésuve et c'était un volcan. Mais rien de ce que nous avions sous les yeux tous les jours ou de ce que nous pouvions voir en escaladant la colline ne nous impressionnait. Habitués par nos manuels scolaires à parler savamment de ce que nous n'avions jamais vu, c'était l'invisible qui nous attirait. Lila disait que dans la direction du Vésuve, justement, il y avait la mer. Nino y était allé et lui avait raconté que c'était de l'eau bleue et scintillante, un spectacle merveilleux. Gigliola Spagnuolo aussi y avait été. Nino, Marisa et elle avaient la chance d'avoir des parents qui emmenaient leurs enfants se promener très loin et pas seulement faire deux pas dans le jardinet de la paroisse. À vrai dire, il me semblait avoir un vague souvenir bleuté de la mer. Ma mère soutenait qu'elle m'y avait emmené quand j'étais petite et qu'elle avait dû faire des bains de sable pour sa jambe. Mais je ne croyais pas beaucoup ma mère. Et Lila, ignorant tout de la mer, je lui avouais n'en rien savoir non plus. C'est ainsi qu'elle eut l'idée de se mettre en chemin et d'y aller seule. Elle me convainquit de l'accompagner le lendemain. Je me levai de bonne heure et fis comme si je devais aller à l'école. Le pain trempé dans le lait chaud, le cartable, la blouse. Comme d'habitude, j'attendis Lila devant le portail, mais au lieu de partir à droite, nous traversâmes le boulevard et partîmes à gauche vers le tunnel. C'était tôt le matin et il faisait déjà chaud. On sentait une forte odeur de terre et d'herbe qui séchait au soleil. Nous passâmes entre les arbres par des sentiers incertains qui montaient vers les rails. Arrivés à un pylône électrique, nous ôtâmes nos blouses pour les ranger dans nos cartables que nous cachâmes entre les buissons. Alors nous mîmes à courir à travers cette campagne que nous connaissions si bien, volant tout excités le long d'une pente qui nous conduisait à l'entrée du tunnel. La gueule de droite était toute noire et nous n'avions jamais pénétré dans cette obscurité. On se prit par la main et on entra. C'était un long passage, et le cercle lumineux de la sortie semblait bien loin. Une fois habitués à la pénombre, étourdis par la résonance de nos pas, nous vîmes des filets d'eau argentée qui glissaient le long des parois. Nous avançâmes très tendus, puis Lila poussa un cri et rit de la violence avec laquelle le son retentissait. Aussitôt après, je criai à mon tour. À partir de là, nous ne fîmes que crier, ensemble et séparément. Éclat de rire et cris et éclat de rire, pour le plaisir de les entendre amplifier. Notre tension diminua et le voyage commença. Quand je songe au plaisir d'être libre, je repense au début de cette journée, à la sortie du tunnel, à ce moment où nous nous retrouvâmes sur cette route droite, à perte de vue. D'après ce que Nino avait dit à Lila, en la suivant jusqu'au bout, on arrivait à la mer. C'est avec joie que je me sentis exposé à l'inconnu. Rien de comparable avec notre descente dans les caves ou notre ascension chez Don Achille. Il y avait un soleil nébuleux et une forte odeur de brûlé. Nous marchâmes longtemps entre des murs écroulés, envahis par les mauvaises herbes et de petits édifices d'où provenaient des paroles en dialecte et parfois quelques bruits retentissants. Nous vîmes un cheval descendre prudemment d'un terre-plein et traverser la route en hennissant. Nous vîmes une jeune femme à son petit balcon occupée à se passer le teigne à poux dans les cheveux. Nous vîmes beaucoup de petits morveux qui arrêtaient leur jeu pour nous regarder d'un air menaçant. Pendant au moins 3 heures de marche, la route que nous parcourions ne nous sembla guère différente de celle que nous voyions tous les jours. À aucun moment je ne me sentis responsable de l'itinéraire. Nous nous tenions par la main et avancions côte à côte. Mais pour moi, comme toujours, c'était comme si Lila se trouvait 10 pas devant moi et savait précisément que faire et où aller. J'étais habitué à me sentir constamment la deuxième et du coup, j'étais persuadé que pour elle, qui était la première depuis toujours, tout était clair. Notre rythme, le calcul du temps à disposition pour aller et revenir, et le chemin pour arriver à la mer. Je pensais que tout était organisé dans sa tête, de telle manière que le monde alentour ne pourrait jamais y semer le désordre. Je m'abandonnais avec allégresse. Puis, nous commençâmes à fatiguer et à avoir faim et soif. Nous n'avions pas pensé à ça. Lila ralentit et je ralentis moi-même. Je la surpris 2 ou 3 fois à me regarder comme si elle s'en voulait de m'avoir fait une méchanceté. Qu'est-ce qui se passait? Je me rendis compte qu'elle se retournait souvent et me mis à me retourner moi aussi.
Sa main était en sueur. Ça faisait longtemps que nous n'avions plus le tunnel, la frontière de notre quartier, derrière nous. Les gens semblaient tout à fait indifférents à notre sort. Et c'était un paysage d'abandon qui se dressait maintenant autour de nous. Des monceaux de bidons, de bois brûlés, de carcasses de voitures, des roues de charrettes aux rayons brisés, des meubles à moitié détruits et la ferraille rouillée. Pourquoi Lila regardait-elle derrière elle? Pourquoi ne disait-elle rien, plus rien? Qu'est-ce qui n'allait pas? Je regardais mieux. Le ciel, qui au début était haut, semblait très bas maintenant. Derrière nous, tout devenait noir. De gros nuages, très lourds, s'étaient posés sur les arbres et les réverbères. Nous entendîmes au loin les grondements du tonnerre. Je pris peur, mais ce qui m'effraya le plus, ce fut l'expression de Lila, nouvelle pour moi. Elle était là, bouche bée, les yeux grands ouverts, et elle regardait nerveusement devant elle, derrière, sur le côté, en me serrant la main très fort. « Est-il donc possible, me demandai-je, qu'elle ait peur? Qu'est-ce qui lui arrive ?» Les premières gouttes tombèrent. Elles frappèrent la poussière de la route en y laissant de petites taches marron. « On rentre, dit Lila. Ben et la mer? C'est trop loin. Et la maison? Aussi. Autant aller à la mer alors? Non. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on faisait demi-tour? On avait le temps, la mer ne devait plus être bien loin. » Et que l'on rentre à la maison ou que l'on continue à avancer s'il se mettait à pleuvoir, on serait mouillé tout pareil. C'était un modèle de raisonnement que j'avais appris d'elle et j'étais stupéfaite qu'elle ne se l'applique pas. Une lumière violette déchira le ciel noir et il tonna plus fort. Lila me tira brutalement et je me retrouvai à courir sans conviction en direction de notre quartier. Le vent se leva, les gouttes se firent plus drues. Et en l'espace de quelques secondes, elles se transformèrent en cascades. Il ne vint à l'esprit ni de l'une ni de l'autre de chercher refuge quelque part. Nous courûmes, aveuglés par l'eau, nos vêtements bientôt trempés et nos pieds nus dans des sandales usées qui avaient peu de prise sur le terrain désormais boueux. Nous courûmes jusqu'à en perdre le souffle. On retraversa le tunnel, puis on grimpa à travers la campagne. Les arbres lourds de pluie nous effleuraient en nous faisant frissonner. On retrouva nos cartables, on enfila nos blouses sèches par-dessus nos habits mouillés et on se dirigea vers la maison, tendu, gardant les yeux baissés. Nous comprîmes vite que rien ne s'était passé comme prévu. Le ciel s'était fait tout noir au-dessus de notre quartier juste à l'heure de la sortie des classes. Ma mère était venue à l'école avec un parapluie pour m'accompagner à la fête chez la maîtresse. Elle avait découvert que je n'y étais pas. Et qu'il n'y avait aucune fête. Elle me cherchait depuis des heures. Quand je vis de loin sa silhouette qui claudiquait à grand-peine, je quittai aussitôt Lila pour qu'elle ne s'en prenne pas à elle et courus à sa rencontre. Elle ne me laissa même pas le temps de parler. Elle me donna des gifles et des coups de parapluie, hurlant qu'elle me tuerait si je faisais encore une chose pareille. Lila passa à travers. Chez elle, personne ne s'était aperçu de rien. Le soir, ma mère raconta tout à mon père et l'obligea à me battre. Il s'énerva parce qu'il ne voulait pas et ils finirent par se disputer. Alors il lui flanqua une gifle, puis, en colère contre lui-même, me fila une bonne raclée. Pendant toute la nuit, je tentais de saisir ce qui s'était réellement passé. Nous devions aller à la mer et nous n'y étions pas allés. Je m'étais ramassé des coups pour rien. Une mystérieuse inversion des rôles s'était produite. Malgré la pluie, j'aurais voulu continuer à avancer. Je me sentais loin de tout et de tous, et cette distance, c'est la première fois que je le découvrais, éteignait en moi tout lien et toute préoccupation. Lila, au contraire, avait brusquement regretté son propre plan, avait renoncé à la mer et avait voulu rentrer dans les frontières de notre quartier. Je n'y comprenais rien.
Merci Hervé. C'était l'amie prodigieuse, Elena Ferrante, dont tu nous as lu quelques extraits. Merci. Nous donnons rendez-vous à nos auditeurs le mois prochain. Tu as certainement déjà réfléchi au livre que tu allais nous lire.
Tout à fait. Dans un mois, je vous lirai un livre de Linda Cirino, La coquetière.
Merci. C'était Bouillon de lecture. L'émission qui vous donne envie de lire.
Au revoir.
À bientôt.